Morning Edition from NPR News.
Bleiben Sie hin, San Pinto, Haus.
France Inter, le 18-20.
Dans l'enlèvement spectaculaire d'Eichmann, dans l'opération Colère de Dieu, après les attentats des JO de Munich, dans le vol des plans nucléaires iraniens, bien plus tard, dans chaque affaire impliquant le Mossad, il y a des femmes. Les services secrets israéliens se targuent même d'être l'organisation la plus paritaire d'Israël. L'histoire de ces femmes, leur rôle est raconté dans un livre qu'on ouvre ensemble dans un tout petit instant. Le bruit du monde ce soir est en Mauritanie avec une unité de surveillance de la frontière qui circule en dromadaire pour prévenir l'arrivée de djihadistes dans le pays. Le bruit du monde de la suite, sous les radars, Sébastien Logénie a trouvé des petits Ougandais qui retournent à l'école pour la première fois depuis 2 ans, des lapons qui disent non aux éoliennes pour protéger leur reine et le pape qui fait ses courses incognito à Rome. 18h50, l'Europe tu l'aimes ou tu la quittes, et Angélique Bouin avec cette question en discussion d'ailleurs aujourd'hui même, et priorité de la présidence française, y aura-t-il un SMIC européen? 18h55, le monde d'après de Jean Marfour qui a lu le rapport de Human Rights Watch, et vous verrez que les régimes autoritaires ne vont pas si bien que ça. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Michel Barzoar.
Bonsoir.
Vous signez Les Amazones du Mossad aux éditions Saint-Simon. Vous co-signez avec Nissim Michel, vous êtes historien, vous avez aussi été député dans une autre vie, conseiller notamment aussi de Moshe Dayan. C'est dire combien les services secrets israéliens n'ont plus grand-chose de secret pour vous. Dans ces portraits d'une vingtaine d'espionnes, on va s'arrêter sur certaines d'entre elles, pas toutes évidemment, parce que certaines font vraiment partie de l'histoire israélienne. Dans ces portraits, ce qui frappe, c'est que pour la plupart, ce ne sont pas des israéliennes en fait, et bien au contraire d'ailleurs, elles viennent des côtes camps du monde, oui. Voire des pays arabes.
Écoutez, à un certain moment, je parlais avec un des chefs du Mossad. Il m'a dit, quand j'ai reçu le Mossad, il y avait dedans des gars formidables qui parlaient très bien le hébreu et le yiddish. Mais avec hébreu et yiddish, on ne peut pas aller très loin. Et ils ont compris qu'ils ont besoin des agents, des guerriers, comme on les appelle, qui viennent des pays étrangers, qui sont plantés, enracinés dans ces pays, avec leur langue, leur atmosphère. Et après, ils ont découvert que ça ne suffit pas, que les femmes qui viennent de l'étranger sont beaucoup plus importantes. Et comme ça, ils ont commencé à engager, à mobiliser des femmes.
Et qui sont le plus souvent volontaires, d'ailleurs.
Oui.
Vraiment,
oui,
la démarche, alors ça peut marcher aussi dans l'autre sens quand on les repère, mais très souvent, dans celle que vous décrivez en tout cas, la démarche, c'est elle.
Oui, en effet. Et elles sont la plupart des femmes qui viennent de l'étranger, qui ont un genre d'amour très simple, très naïf d'Israël, en disant, voilà, c'est mon petit pays, je dois le protéger. Et là, il y a ce genre de patriotisme. Après, elles sont très courageuses, elles ont une intuition incroyable, et puis elles sont très inventives. Mmh. Elles sont capables, beaucoup plus que les hommes, de trouver une solution improvisée au dernier moment dans une opération qui suit son cours. Et aussi, bien sûr, elles ont une petite étincelle dans les yeux, un petit goût de l'aventure. Et maintenant, elle vient de partout dans le monde, de la France, d'Angleterre, d'Allemagne, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, des États-Unis, du Canada, de l'Uruguay, Argentine.
D'Égypte même, parfois,
oui, d'Égypte,
pour certaines.
Du Liban, de tout à travers le monde. Et chacune a une histoire en soi.
Les chiffres, Michel Barzoar, disent qu'aujourd'hui, 47% du Mossad aujourd'hui est féminin, près de 30% un peu plus dans les postes à responsabilité. Est-ce que c'est vraiment maintenant encore une spécificité israélienne? Je vous pose la question parce qu'on sait depuis le Bureau des légendes, depuis d'autres films d'espionnage aussi, que dans les autres services, les femmes également sont assignées à des missions dangereuses. Est-ce que le Mossad a été précurseur, vous diriez?
Mais écoutez, dans le Mossad, vous avez depuis l'année 47, déjà des femmes qui ont laissé leur empreinte. Vous avez une femme qui a agi au Caire, qui a amené à Israël les cartes d'invasion des États arabes.
C'est la première que je voulais pointer avec vous, ça tombe bien que vous y alliez, c'est Yolande Armor. Une femme assez incroyable quand même, qui épouse la cause israélienne, on est juste à la fin de la guerre, donc on n'est même pas encore à la création de l'État juif, et elle n'est pas du tout destinée à ça, elle est très très étonnante, Yolande Armor.
Oui, parce qu'elle aimait sa vie, la vie. Écoutez, le Caire à ce moment-là, c'était le dernier refuge du colonialisme blanc. Mm-hmm. Il y avait des gens de France, d'Angleterre, d'Italie, qui avaient une belle vie au Caire. Et elle était très, très gâtée, d'une famille riche, très belle, très séduisante. Et un jour, elle tombe amoureuse du sionisme. Elle commence à faire des choses. Le soir, il y a le grand dîner dans l'hôtel Shepard's au Caire. Le roi Farouk vient avec sa suite. Et soudain, elle saute de sa table.
Elle est très culottée, ouais.
Elle court vers lui. Tout le monde est ébahi. Voilà, c'est un sacrilège. Elle court vers le roi et lui dit, vous pouvez m'arrêter si vous voulez, mais je veux votre interview, je suis journaliste. Et lui, il donne sa carte et dit, madame, quand vous voulez, appelez-moi directement. Et personne ne sait qu'elle est en fait la chef du réseau d'espionnage d'Israël. Okay.
Et c'est comme ça que les plans d'invasion des pays arabes à ce moment-là, elle peut les donner à Israël. Ce qui est fou, c'est qu'elle, et ça on le retrouve beaucoup dans les histoires que vous racontez, elle va le payer cher, il y aura de la prison, ce sera difficile, et surtout, le Mossad, puisque on est en 47, donc il n'est pas encore créé, il faut encore une année, un peu plus, le Mossad va se faire sans elle. On n'a pas besoin de ses services. Elle est laissée sur le bord de la route, cette Yolande, qui a pourtant rendu de fiers services.
Écoutez, quand même, il y a une deuxième femme qui s'appelle Shula Cohen, qui m'a dit, c'est pas le Mossad qui m'a recruté, c'est moi qui ai recruté le Mossad. C'est une femme qui habitait le Liban, elle avait 7 enfants, personne de ses enfants n'avait aucune idée de ce que sa mère faisait, pendant 12 ans ou 14 ans. Et une femme extrêmement très belle, très ouverte, une femme aux mœurs européennes, qui, dans un pays arabe, qui parlait aux hommes en égal, qui fumait en public. Ça, c'était pas vu, mais quand même, ça attirait le monde.
Et puisque vous en parlez aussi, Shula Cohen...
Finalement, elle fut condamnée à mort par pendaison.
Alors, heureusement, elle a été échangée. Au dernier moment, elle est morte centenaire. Je l'ai appris grâce à vous assez récemment.
Elle arrive en Israël à l'âge de 50 ans. Elle reçoit tous les prix possibles de renseignement. Et puis, elle reste encore 50 ans avec toute sa famille. Qui ne savait rien de ses affaires. Elle est morte l'année dernière.
2017, effectivement, elle avait 100 ans. Le moment charnière, quand je vous lis, c'est la première fois qu'on est en toute première ligne quand on est une femme, c'est l'opération de kidnapping d'Eichmann, et c'est Yehudit Friedman. Et c'est la première fois qu'il y a un rôle aussi central, en fait.
La première fois qu'elle a participé à une opération. Elle était une femme extraordinaire. Je connaissais très bien. Je la connaissais.
Ouais.
Je connaissais son mari, qui était un ami à moi, qui était l'idéologue du Parti travailliste.
Et vous saviez ce qu'elle avait fait ou pas, vous ?
Pardon ?
Vous saviez, vous, ce qu'elle avait fait ?
Non.
Ah, vous saviez pas ?
Non. Je la voyais.
Ouais.
On la voyait toujours. Il attirait par la main une femme grassouillette, petite, ce qu'on appelle aujourd'hui transparente.
Ouais, ouais.
Et on se disait, mais pourquoi
vous êtes même rude, vous dites qu'elle a des yeux rendus globuleux par d'épais verres de lunettes et des attitudes maladroites. Vous n'êtes pas tendre avec elle.
Mais un jour, je me réveille, j'apprends qu'elle était la Matahari d'Israël, la femme l'espionne la plus capable. Elle a fait des choses formidables. Et aussi sa présence d'esprit, parce que elle rencontre le consul français à Oujda, et il lui demande de donner des visas à des juifs marocains qui doivent partir à travers l'Algérie pour venir en Israël. Et il se trouve qu'il est un grand admirateur du philosophe israélien Martin Buber. Elle a étudié chez Martin Buber à l'université. Et ça, elle les rapproche. À tous les deux, imaginez-vous l'image assis près d'une table avec des tampons à la main, parlant de Buber et tamponnant les faux passeports des juifs marocains pour partir en France.
Il y a une autre femme, Michel Barzavar, dont je voudrais quand même qu'on parle, parce que là aussi, c'est un moment extrêmement important, c'est Sylvia Raphael.
Oui.
Sa couverture, c'est photographe, une femme incroyablement étonnante, elle a ses entrées partout, y compris à Paris. Elle est très bonne photographe, d'ailleurs, puisqu'elle l'expose également.
Oui.
Et en même temps, c'est une tueuse, parce que celle qui appuie sur le bouton de la bombe qui tuera l'un des terroristes des JO de Munich, c'est elle.
Écoutez, Sylvia Raphael, c'était vraiment une personnalité incroyable. Elle a reçu le nom et le passeport d'une véritable Canadienne qui s'appelait Patricia Roxburgh. Elle est devenue photographe et vedette de l'agence Delmas à Paris.
Ouais.
Elle était partie à Djibouti, elle a fait une exposition de ses photos. Et un monsieur l'approche et lui dit « Je suis l'ambassadeur de Jordanie, je veux vous inviter à mon pays ». Et comme ça, elle commence sa carrière. Elle devient très, très familière avec le roi Hussein, sa famille, la reine, les enfants. Elle vient tellement si souvent qu'on l'appelait déjà la photographe non officielle du palais du roi. Maintenant, imaginez-vous le roi de Jordanie qui s'assoit pour son petit déjeuner, qui reçoit ses œufs brouillés, le journal du jour, il ouvre, première page, une énorme photo de cette Patricia Roxburgh qui vient si souvent au palais. Mais au-dessous de la photo, c'est écrit Sylvia Raphael, espionne israélienne, arrêtée à Lillehammer en Norvège.
Parce que ce qu'il faut raconter, c'est que donc elle a assassiné au moins un, si ce n'est plus, de ces terroristes des JO de Munich. Et le dernier, celui qui était le patron du groupe, c'est le grand fiasco du Mossad, puisque, comme vous dites, effectivement, on est à Lillehammer.
Le prince rouge, en effet, oui.
Et il se trompe de cible. Il tue quelqu'un qui est un Marocain en vacances. C'est une totale catastrophe.
Oui. Un pauvre Marocain, Bouchiki, qui n'avait rien à voir avec le terrorisme.
Et c'est probablement l'histoire la plus terrible. Et à ce moment-là, Sylvia Raphael, elle dit ceci, « Quelque chose en moi s'est brisé. Mon désir de continuer à servir des gens que j'estimais au plus haut point s'est érodé. Tout à coup, j'ai commencé à voir sous un nouveau jour ces héros que je croyais d'une intégrité absolue. Quelle tristesse !»
En effet, elle était très déçue de ce fait-là. Et quelqu'un du Mossad lui a écrit un poème en disant « Nous sommes finalement des êtres humains comme tout le monde et nous pouvons errer comme les autres. »
Parce que c'est ça qui est à la fois étonnant et terrible quand on vous lit, parce que oui, ça peut se lire effectivement comme un polar, d'ailleurs ce sera bientôt une série, donc on voit ce que ça veut dire. Et en même temps, tout ça c'est tout sauf glamour. On est en train de parler de guerre, on est en train de parler de kidnapping, on est en train de parler d'assassinat, on parle aussi parfois de bavure. Rien n'est glamour dans ces histoires-là, en réalité.
Exactement. C'est très dur, c'est très difficile. Et vous savez, c'est pour cela que vous avez besoin d'avoir une caractère spéciale. Il y a une fille qui s'appelait Yael, qui a passé 14 ans dans les endroits les plus dangereux au Moyen-Orient. Elle est américaine d'origine, les plus dangereux. Et je lui ai dit, Yael, mais tu n'avais pas peur? Elle m'a dit, j'avais une seule peur, de ne pas réussir dans ma mission. Ça, c'était ça. C'est des filles, des femmes avec un caractère spécial. Et le chef du Mossad m'avait dit, si Yael recevait toutes ces médailles pour ce qu'elle a fait pour le pays, il n'y aurait pas de place sur sa poitrine.
Il y a des chapitres étonnants, je pense à Cindy par exemple, dont le travail est de se débarrasser d'un traître qui vend des informations au Sunday Times. C'est une histoire qui avait fait beaucoup beaucoup de bruit. Elle le séduit, cet homme, elle le séduit au fond malgré elle, et le Mossad lui dit vas-y, continue. Et à la fin, elle va pas coucher avec lui, vous racontez, mais on passe pas loin. Et à la fin, elle sera indemnisée par le Mossad, en fait, qui considère que on demande pas aux femmes d'aller si loin. Ça,
parce
c'est de la fiction.
Voilà, elle
ça, c'est pas
un
la
ordre
réalité.
Qui est illégal au Mossad. On peut pas ordonner à une femme d'entrer dans une relation intime avec un homme. Si elle le fait de sa propre volonté, c'est son affaire. Mais on peut pas lui l'ordonner. C'est pour ça qu'elle a été déjà indemnisée. Elle vit toujours à Orlando parce qu'elle a été brûlée par cette opération
cette histoire
dont vous parlez. Mais et il y a encore des femmes qui ont une carrière. Il y a eu la Française Danielle qui est passée au Caire en tant que femme d'un agent qui était déjà là. Elle a passé 2 ans au Caire et elle revient. Et vous savez ce qui se passe, il y a plusieurs cas où ces guerriers ou guerrières ne peuvent pas s'adapter à la vie civile d'après, parce qu'on leur apprend de mentir, de voler, de tuer, d'agir contre la loi, et il y a plusieurs qui n'arrivent pas. Les autres, ceux qui arrivent à s'adapter à la vie civile, elles veulent toujours aider le pays sur le plan social. Il y a plusieurs femmes du Mossad qui aujourd'hui s'occupent des Éthiopiens, les aidant de s'intégrer à la société. Ou bien ils veulent entrer dans l'éducation. J'ai rencontré une fille qui est encore Amazon du Mossad, et qui me dit, quand je termine, je veux être directrice d'une école dans un endroit des plus pauvres qu'il y a en Israël, parce que je veux aider le pays.
Ce qui n'est pas le cas des hommes quand ils finissent leur carrière au Mossad, rassemblement. Ouais, si
oui,
c'est le cas des hommes aussi quand ils finissent leur carrière au Mossad, ou pas?
Il y a tout un groupe d'anciens du Mossad qui aident aujourd'hui les Éthiopiens de s'intégrer. Parce qu'on leur a inculqué qu'ils doivent faire quelque chose pour le pays. Et quand ils sortent du Mossad, finalement, ils veulent continuer d'une façon ou d'une autre. Mais il y en a certaines qui n'arrivent pas.
Michel Berzoar, les dernières affaires que vous racontez sont très récentes. On parle notamment de d'ailleurs, il y a des femmes aussi là-dedans, elles sont trois, qui ont réussi à voler les plans nucléaires iraniens. Et c'est la grande affaire du Mossad en ce moment, les histoires évidemment iraniennes. Moi, je me demande si vous avez le sentiment, vous, qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, le Mossad est toujours fidèle à j'allais dire, sa légende, et je vais y mettre des guillemets, quelque chose de triomphant, quelque chose de très, très hollywoodien, au fond. Est-ce que c'est vraiment encore comme ça, ou est-ce que tout cela fait aussi partie d'une vieille image et d'une image historique ?
Écoutez, la plupart des choses que vous lisez, la plupart est vraie, la plupart. Sauf des histoires qu'on vous raconte. Mais parfois, il y a vraiment des choses qui paraissent prises à un roman.
Oui,
un film un peu l'art de deuxième ordre, comme on a assassiné le chef des le professeur qui était à la tête du projet nucléaire, avec tout, sans aucune personne dans les parages, tout a été fait avec des moyens électroniques, avec un œil électronique qui l'a vu, qui a arrêté la voiture, qui a tiré dessus, et comme ça, paraît être quelque chose de science-fiction.
Et c'est vrai qu'il y a de ça, et ce sera la dernière question, c'est vrai que le Mossad, mais comme tous les services en fait, est rentré dans une espèce de pop culture aujourd'hui. On le voit dans toutes les séries israéliennes qui sont extrêmement populaires.
Oui.
Votre livre va être une série derrière. Est-ce que c'est bon ou pas bon finalement pour un service secret comme celui-là, qui a eu effectivement cette légende-là, de terminer dans la pop culture au fond, à votre avis ?
Écoutez, si vous auriez vu mon manuscrit avant que la censure l'a parcouru,
envoyez-moi le manuscrit.
Vous n'aurez pas posé cette question, parce que finalement c'est seulement le bout de l'iceberg que nous montrons dans nos livres.
Et ça,
c'est très important, parce que vous savez, parfois par hasard, vous pouvez publier un nom ou une adresse ou une certaine opération, et ça peut aboutir à la mort de quelqu'un.
Et ça, on imagine bien que ça a été visé de très très près, cette histoire. Ça s'appelle Les Amazones du Mossad, c'est publié chez Saint-Simon, et c'est signé Michel Berzoar et Nissim Michal. Je vous remercie mille fois. Merci beaucoup.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès, sur France Inter.
La suite ce soir, c'est Le Bruit du Monde. Vous suivrez avec nous en Mauritanie une unité centenaire de la garde nationale, des hommes qui surveillent la frontière avec le Mali à dos de dromadaires. Et puis la troupe qui nous emmène jusqu'à 19h par ordre d'apparition sous les radars, Sébastien Logénie.
Nous irons en Ouganda, où les écoles viennent seulement de rouvrir après 2 ans de fermeture, la plus longue au monde à cause du Covid.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes, c'est Angélique Boin. Bonsoir Angélique.
Bonsoir.
Quoi de neuf ce soir ?
On va parler de cette directive européenne qui vise à établir non pas un SMIC européen unique, Fabienne, mais des salaires minimums décents partout en Europe.
Le Monde d'après, Jean-Marc Four. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir à tous. On va s'intéresser au rapport annuel de la grande ONG Human Rights Watch avec un constat contre-intuitif. Les régimes autoritaires ne vont pas si bien que ça.
Allez, à tout de suite. Tout le monde, le tour de la planète continue. Il fait escale au Royaume-Uni. Arlo Parks, Eugene sur France Inter.
We've been by control. You put your hands in his shirt. You play him records I show. You read him Sylvia Plath. I thought that that was our thing. You know I like you like that. I hate that son of a bitch.
We've been best buds since 13. But that don't change.
Le bruit du monde ce soir est en Mauritanie et nous sommes à dos de dromadaires avec une unité de la garde nationale qui existe depuis 1905. À l'origine, c'est la France qui a mis sur pied cette unité pour lutter contre les rébellions au temps de la colonisation. Et désormais, cette unité, la même, garde la frontière pour éviter d'y voir s'infiltrer des groupes terroristes. Apparemment, c'est efficace puisque la Mauritanie n'a pas connu d'attaque terroriste depuis 2011. Le reste, c'est Paul Lorgerie qui raconte.
C'est un peu un paysage de cartes postales qui s'étend sous nos yeux. Dans cette plaine de Walata, où jadis les caravanes de marchands s'entassaient pour rejoindre l'empire du Ghana, c'est aujourd'hui une file indienne de méharistes qui patrouille au rythme saccadé de leurs chameaux. L'adjudant-chef Sidi Lebsar est à la tête du peloton.
Les groupements nomades dans cette zone désertique. Une zone où il n'y a pas d'administration, une zone très difficile. C'est pour cela, nous, les jeunes, avec notre chameau, nous, on part chez les nomades, là où les véhicules ne passent pas. On sensibilise, on cherche les populations qui ne connaissent même pas l'État. De quoi il s'agit-il ?
Ces chameaux, ou plus précisément des dromadaires, sont tout pour ces hommes du désert, nés et élevés dans ces zones arides. Chacun a le sien, chacun le choix à sa façon.
Et ça lui fait pas mal ou quoi ?
Oui, ça fait un peu mal, parce que là, les cordes qu'on...
Ah, en dessous, ouais.
Pour immobiliser la selle, ça fait un peu mal.
Ce qui leur permet notamment d'atteindre les populations les plus éloignées, là où la présence de l'État mauritanien est annihilée dans ces immensités sablonneuses. Nous retrouvons le groupement nomade quelques dizaines de kilomètres plus loin, sous une raïma, une tente traditionnelle. Stéthoscope à la main, l'adjudant-chef Famouri Keïta, l'infirmier de la garde nationale, prend la pression d'une femme âgée.
Cette dame-là s'est consultée. Elle dit qu'elle a des vertiges, des nausées. De ce fait, je lui ai donné de la benzazole. Ça, c'est un déparasitant.
Sensibilisation, soins de première nécessité, paperasse administrative. Les méharistes sont de véritables administrateurs qui rappellent à chacun de leur passage que l'État est bien présent. Car des éléments liés à Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui profitent justement de la faiblesse des États pour recruter, rôdent à une centaine de kilomètres de là. Le commandant Ahmed Abdallah Doul Deli le sait très bien.
On cherche le voleur de bétail, on cherche les éléments suspects, on rentre dans les marchés locaux pour savoir est-ce qu'il n'y a pas des éléments de l'ACMI infiltrés. Quand on sait qu'il y a des quantités de carburant, qu'il y a des quantités de cartes d'échange, de téléphonique, on sait que derrière ça, il y a un groupe, un élément qui n'est pas la population. Parce que les nomades, souvent, ils achètent la nourriture, ils achètent des trucs pour la lumière, un peu du pétrole, un peu de bougie. Mais quand on sait qu'il y a des quantités de carburant, quand il s'agit des quantités de cartes téléphoniques, on sait que c'est infiltré. On les suit, on donne ça à d'autres genres de renseignements, d'autres éléments de renseignement. Pour donner ça pour les unités, pour l'intercepter et le contrôler.
En fait, les méharistes font partie d'un véritable système de renseignement. Grâce à eux, le gouvernement mauritanien bénéficie d'un tissu d'informateurs extrêmement étendu dans chaque communauté nomade. Et donc rien n'échappe au quartier général, même dans les zones les plus reculées. Et ce dernier quartier général prend ensuite le relais face à un risque élevé, comme le notifie le chef d'état-major de la garde nationale, le général Mohamed Cher Ould Mohamed Lemine.
Les terroristes dans la zone, c'est des gens motorisés. C'est des gens qui ont des véhicules, des 4x4, puis ils sont bien entraînés. Donc en face des chameliers, c'est rien du tout. Le chamélier, comme il est sur un animal de 3 mètres, c'est facile, avec un coup de fusil, de l'abattre.
En réalité, cette stratégie d'unification du territoire remonte à 1905, lorsque les administrateurs français occupaient la Mauritanie.
Ils ont créé ce groupement nomade. Ça a bien donné, ils ont pu carrément isoler la résistance armée mauritanienne de ses appuis qui sont au Sahara et au Maroc, en Algérie et dans la zone de l'Est. Ces trois groupements nomades ont permis la pacification de la Mauritanie.
C'est pourquoi l'Union européenne a décidé de soutenir la garde nationale dans ce projet, en transformant notamment un ancien camp français en centre de formation régionale des méharistes, pour que le modèle soit reproduit dans les autres pays du Sahel.
Paul Lorgerie pour Un jour dans le monde et pour France Inter. Merci beaucoup pour le reportage et pour la balade d'ailleurs. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars et c'est Sébastien Logénie. Une salle de classe en Ouganda où les écoles, Sébastien, viennent de rouvrir après 2 ans de fermeture.
83 semaines exactement, sans cours. C'est la plus longue fermeture des écoles dans le monde à cause du Covid. Une exception qui a donc pris fin en début de semaine avec le retour en classe des 15 millions de jeunes Ougandais, ravis de retrouver leurs professeurs. Pour autant, cette rentrée se fait dans des conditions encore très difficiles. La crise sanitaire, évidemment, est passée par là. Les parents, qui ont perdu souvent leur emploi, peinent à trouver l'argent pour repayer les frais de scolarité. Et puis il y a les enseignants eux-mêmes, non rémunérés pendant 2 ans et qui ont parfois changé de métier. Ce directeur d'école primaire confirme qu'il y a des enseignants dans les écoles privées qui n'ont pas été payés du tout et d'autres ont même abandonné la profession. Il y a aussi une grosse différence entre les enfants des villes et des campagnes. Il va falloir, dit-il, combler ce fossé, mais cela prendra du temps et nous aurons besoin d'une intervention sérieuse du gouvernement. Les dégâts de cette très longue fermeture risquent d'être lourds. En effet, rares sont les enfants privilégiés qui ont pu continuer les cours à distance avec des cours privés. En revanche, les ONG s'inquiète de l'augmentation possible du travail forcé ou des mariages précoces chez les enfants qui ne retourneront pas en classe. Pour l'UNICEF, cette situation, je cite, ne doit plus jamais se reproduire.
Allez, direction la Laponie avec une version polaire de Don Quichotte.
Une bataille contre les moulins à vent des temps modernes, j'ai nommé les éoliennes. Ici, ce ne sont pas les chevaliers errants qui sont les héros de l'histoire, mais des éleveurs de rennes, des lapons vivant aux confins de la Norvège et qui sont entrés en lutte depuis plusieurs mois contre le plus grand parc de turbines en Europe. 151 éoliennes exactement, construites sur la péninsule de Fossen. Un investissement d'1 milliard d'euros pour verdir l'électricité du Grand Nord et lutter contre le réchauffement de la planète, mais qui menace directement l'activité économique des lapons et leurs traditions. On entend ici un éleveur de rennes dans son 4x4. C'était un lieu préservé ici. Il n'y avait aucune activité humaine, dit-il. Nos rennes pouvaient paître et s'épanouir parfaitement dans cet environnement, mais désormais, cet endroit est souillé pour des années et des années à venir. Ces éleveurs de rennes ont été entendus il y a 3 mois par la plus haute instance judiciaire norvégienne. La Cour suprême a conclu que 2 fermes éoliennes bafouaient les droits civils et politiques de plusieurs familles. Une victoire retentissante, mais qui n'a rien changé. Sur le terrain, les éoliennes déjà construites sont toujours là. Le gouvernement norvégien hésite à les démonter, déchiré entre le respect de ces populations autochtones et l'urgence climatique.
Allez, on termine avec une visite surprise du pape.
Qui aurait dû rester discrète normalement, mais qui s'est retrouvée à la une, filmée par hasard par un journaliste italien. Il était 19h mardi soir quand une Fiat 500 s'arrête dans une petite rue du centre historique de Rome. En descend le souverain pontife, 85 ans, qui s'engouffre immédiatement dans une petite boutique du quartier, Stereo Sound. Rien à voir avec un vendeur de chasubles ou d'images sacrées, il s'agit bien d'un disquaire que le pape est venu bénir par fidélité. François est un habitué des lieux. On entend ici le vendeur de Stereo Sound. Le pape avait l'habitude, dit-il, de venir ici avant de devenir pape. C'est un ancien client. Quand il arrivait à Rome pour se rendre au Vatican, il passait à la boutique. Avant, il achetait des cadeaux, puis il continuait son chemin. La bénédiction, c'était une sorte de promesse qu'il nous avait faite. Il voulait revenir pour nous saluer. Ça lui rappelle peut-être l'époque où il n'était pas encore pape. Voilà, François est ressorti de la boutique avec un cadeau sous le bras, un 33 tours, un vinyle de musique classique. On dit qu'il aime Wagner, mais aussi le tango argentin.
Ça aurait été plus drôle s'il était revenu avec les Stones. Mais bon, merci beaucoup Sébastien. Je vous laisse partir avec Agnès Obel de Curse sur France Inter. Sobel sur France Inter de Curse. Allez, direction Bruxelles, où nous attend Angélique Point.
France Inter.
Je suis venu vous parler d'Europe.
The European Union, général.
Un jour dans le monde.
L'Europe, tu l'aimes ou tu la quittes. Bonsoir, bonsoir Angélique. Il y aura-t-il bientôt un SMIC européen? La France, en tout cas, en a fait l'une des priorités de sa présidence tournante. La première réunion de négociation se tenait aujourd'hui même. Mais Angélique, de quoi on parle exactement?
Eh bien, on ne parle pas d'un salaire minimum identique partout en Europe, Fabienne. C'est évidemment impossible, hein, vu la différence de niveau de vie selon que l'on est, par exemple, luxembourgeois ou bulgare. Quelques chiffres, au Luxembourg, le SMIC, c'est environ 2200 euros, presque 7 fois le montant du SMIC bulgare, qui est à 330 euros. Des chiffres à manier tout de même avec précaution, car la vie est évidemment plus chère au Luxembourg qu'en Bulgarie. Alors, si on se réfère à l'analyse de l'Institut Jacques Delors, quand on prend en compte le pouvoir d'achat, le ratio entre le SMIC luxembourgeois et le SMIC bulgare n'est pas de 1 à 7, mais de 1 à 3, ce qui reste tout de même important. L'objectif de la loi en cours de négociation, ce n'est donc pas d'instaurer un salaire minimum unique, mais un salaire minimum décent dans chaque État, salaire qui serait en adéquation avec le niveau de vie de ses citoyens. L'idée, c'est de poursuivre la convergence sociale entre les 27, qui est déjà bien en route, hein, tout de même. En Roumanie, le salaire minimum est passé, par exemple, de 70 euros en 2004 à 470 aujourd'hui. Mais cette convergence, elle doit continuer, à la fois pour lutter contre la pauvreté qui est en hausse encore en Europe et puis aussi pour lutter contre la concurrence déloyale. Faire fabriquer des pantalons en Bulgarie coûte évidemment moins cher qu'à l'ouest de l'Europe. Or, la concurrence déloyale entre nous, ça sape les fondements de l'Union et l'adhésion des citoyens, souligne une source gouvernementale française.
Alors, un texte de loi est sur la table, discuté donc à partir d'aujourd'hui en trilogue. Ça veut dire qu'on va apprendre encore un mot nouveau. C'est quoi ça, le trilogue ?
Alors, le trilogue, Fabienne, hein, c'est la réunion de négociation finale entre les trois institutions. Voilà. La commission qui propose les lois, le Parlement qui a négocié entre ses différents partis politiques et qui apporte son propre texte amendé, et puis le Conseil qui représente les 27 qui ont aussi négocié entre eux une position que défendra la France en sa qualité de présidence tournante. Alors, sur cette future directive européenne sur les salaires minimums adéquats, eh bien, c'est la ministre du Travail, Elisabeth Borne, qui est à la manœuvre et qui va avoir la lourde tâche de faire accoucher d'un compromis.
Et donc, il faudra plusieurs trilogues.
Ah oui, sans doute. Hein. Alors, la France espère bien afficher un accord avant l'élection présidentielle. Ce sera un joli signal à gauche pour le président Macron, qui n'a pas ménagé ses efforts pour pousser ce texte, mais ce n'est pas gagné, car il y a tout de même un vrai écart en ce moment entre ce que veut le Parlement et ce que veulent les États, car certains pays qui n'ont pas de salaire minimum ont fixé des lignes rouges pour que la loi ne soit pas trop contraignante. Hein. Ces pays sans SMIC, ce sont l'Autriche, l'Italie, Chypre, le Danemark, la Suède et la Finlande. Et dans les pays nordiques, en particulier, on a une tradition de négociation collective patronat-syndicat pour fixer les salaires. On ne veut pas que Bruxelles s'en mêle de trop près, d'autant que le social n'est pas une compétence européenne. Le texte sur la table est donc assez limité. Il détermine certains cadres pour fixer des salaires minimaux avec des indicateurs. La Commission a suggéré à peu près 60% du salaire médian brut de chaque pays, mais cette législation, elle promeut surtout un renforcement du dialogue social pour pousser les salaires à la hausse.
Et alors, pour lutter contre la pauvreté et les inégalités salariales, la Commission européenne a une autre proposition dans sa manche.
Oui, un autre texte en cours de négociation ici qui est très complémentaire en fait. Hein, c'est celui sur la transparence salariale qui a pour objet de lutter contre les inégalités hommes-femmes. La majorité des travailleurs payés au SMIC, au salaire minimum hein, dans l'Union, 60% ce sont des femmes, Fabienne. Mmh. En 2019, elles gagnaient encore en moyenne à l'échelle des 27. Bon, il y a aussi des disparités, 14% de moins que les hommes. Cette future loi, elle prévoit d'imposer aux entreprises de plus de 250 travailleurs une transparence sur les salaires. Et puis s'il y a des écarts non justifiés de plus de 5%, elle va leur imposer des négociations salariales. Il prévoit aussi un meilleur accès à la justice en cas de discrimination. Ce texte est plus consensuel, il pourrait lui aussi aboutir assez vite, hein, selon les experts.
Angélique Bouin à Bruxelles tous les jeudis dans Un jour dans le monde. Merci Angélique.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, Human Rights Watch, l'une des plus grandes ONG de défense des droits de l'homme, a publié ce matin son rapport annuel et son constat principal est assez contre-intuitif et surprenant. Pour elle, les autocrates et les régimes autoritaires sont plutôt sur la défensive. Et si ce constat optimiste était vrai, c'est votre monde d'après.
Évidemment, à première vue, les régimes autoritaires ont le vent dans le dos. L'année 2021 n'a pas été bonne pour les libertés. Des coups d'État militaires au Mali, au Soudan, en Birmanie, avec notamment en Birmanie une répression féroce. Des dérives illibérales contre l'État de droit, y compris en Europe, on pense à la Hongrie. Et des restrictions drastiques des libertés publiques au nom de la lutte contre la pandémie. Le paroxysme, c'est la Chine, avec son contrôle social absolu. Mais Human Rights Watch émet donc, vous le disiez, une hypothèse inattendue au fil de ce rapport énorme, une somme de 764 pages, vous trouverez le lien sur le site de France Inter. Les autocrates ne vont pas si bien que ça. D'abord, affirme l'ONG, ils répriment parce qu'ils ont peur, ils sont en position défensive. La vigueur de la répression est donc le reflet de leur perte de confiance. Par exemple, Poutine s'en prend désormais au moindre opposant parce qu'il sent son pouvoir menacé. L'avantage de cette situation, écrit le rapport, c'est que les autoritaires de tout poil sont obligés de mettre bas les masques. Pour conserver leur pouvoir, ils ne peuvent plus faire semblant. Ils doivent assumer de truquer les élections, Ortega au Nicaragua, Museveni en Ouganda, ou d'envoyer des chars, Otokaïev récemment au Kazakhstan. Tous ces dirigeants qui rêvent d'être légitimés par les urnes sont obligés d'admettre à la face du monde qu'ils ne sont pas légitimes.
Mais enfin, le résultat des courses, quand même, Jean-Marc, c'est moins de liberté.
Oui, c'est ça, ça fait une belle jambe aux opposants. C'est vrai. Mais ça nous conduit à un autre constat du rapport. Ces autocrates ne convainquent personne. Et la meilleure preuve en est la multiplication des mobilisations de la société civile ou des partis politiques pro-démocratie. Il y a donc un décalage croissant entre des citoyens qui aspirent aux libertés démocratiques et des pouvoirs autoritaires anachroniques. Ces mobilisations de la société civile, on les a vues à Hong Kong, à Cuba, plus encore en Birmanie, où le mouvement de désobéissance est massif contre la junte militaire, grâce en particulier aux réseaux sociaux. On la voit aussi au Soudan, d'ailleurs, vous en parlez. parliez avant-hier soir, ici même, où la flamme de la contestation n'est pas prête de s'éteindre contre les militaires. Alors vous me direz que tous ces mouvements échouent, c'est vrai, mais ils témoignent de la vigueur de l'aspiration démocratique. Et puis parfois, quand les régimes sont moins totalitaires, les mobilisations réussissent face à des dirigeants illibéraux ou corrompus. Human Rights Watch place dans cette catégorie le succès des coalitions politiques qui ont fait chuter ces derniers mois le Tchèque Babis ou l'Israélien Netanyahou. Le même phénomène pourrait conduire dans les mois qui viennent à la fin d'Orban en Hongrie, de Bolsonaro au Brésil ou d'Erdogan en Turquie. En résumé, les autocrates se raidissent parce qu'ils sont sur la défensive, mais en face, les aspirations démocratiques croissantes des populations peuvent l'emporter.
Alors, mais les démocraties installées dans tout ça, Jean-Marc, elles vont comment ?
Alors ça, c'est en fait le constat le plus préoccupant du rapport. Elles ne vont pas bien non plus. D'abord, les leaders des démocraties sont embourbés dans l'égoïsme, le repli national, les batailles partisanes de court terme. Traduction concrète, l'égoïsme vaccinal des pays riches, qui dédaigne l'aide à la vaccination dans les pays pauvres. Le manque d'ambition dans la lutte contre le réchauffement climatique. Il y a plus grave, la persistance des leaders des démocraties à couvrir les régimes autoritaires au nom des contrats commerciaux. Le rapport épingle notamment l'Allemagne d'Angela Merkel, qui donne la priorité à un accord économique européen avec la Chine au détriment de la cause des musulmans ouïghours opprimés par Pékin. Il épingle aussi la France d'Emmanuel Macron, qui vend des armes à tout prix au pouvoir de Sisi, le plus répressif qu'ait connu l'Égypte dans son histoire moderne. Ce sont les mots du rapport. Enfin, Human Rights Watch invite les démocraties à balayer devant leurs portes, à s'occuper des laissés pour compte dans leur propre pays, à améliorer leur système de gouvernance, à protéger leurs institutions, leurs contre-pouvoirs, la justice, la presse, les ONG. Et là, évidemment, ce sont les États-Unis qui inquiètent, avec le risque d'une dérive vers un régime où l'état de droit et la liberté de vote ne seraient plus respectés. Donc les démocraties pluralistes sont elles aussi sur la défensive. Et ça, c'est presque le meilleur atout des autocrates.
Le monde d'après de Jean-Marc Four, tous les soirs, dans Un jour dans le monde. Merci beaucoup Jean-Marc, à très vite. Le 18-20, la suite, c'est le journal d'Hélène Philly, juste après. Le téléphone sonne, on revient tout de suite.